Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Depuis le mois de septembre et mon retour du Vietnam, j'ai posé mes valises à Albi. C'était la première fois que je découvrais la ville et j'ai tout de suite été agréablement surpris par la richesse des initiatives locales en faveur de la transition et d'une société plus solidaire. De temps en temps, je partagerai avec vous, dans le podcast, le parcours de vie de ces albiégeois engagés. Aujourd'hui, on va parler vélo, compostage, slashing, développement web, permaculture et introspection avec Ben, cofondateur de l'association La Recyclada. Bonne écoute!
Bonjour Ben.
Salut Jean-Philippe.
Ben, pour commencer cet échange, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Alors, Ben Lothar, albigeois de 31 ans. Je suis natif en fait d'Albi. J'y suis retourné il y a 2 ans maintenant. J'habite juste à Saint-Jury, à quelques kilomètres. Je fais quoi dans la vie? Alors, je ne vais pas me définir sur une seule activité parce que je considère un peu que je suis multicasquette, mais pour faire simple, j'exerce 2 activités, celle de coursier et à vélo, et de développeur et de designer indépendant. Donc voilà, je suis auto-entrepreneur.
D'accord. Et tu as notamment une activité engagée pour la transition écologique qui s'appelle La Recyclada. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Alors, La Recyclada, c'est une association que j'ai co-créée avec un ami à moi qui s'appelle Tristan Monsara. C'est une association, on l'a créée en août 2020. Et le projet a maturé quand même pendant plus de 6 mois. Donc, c'est une association qui a pour but de collecter les déchets organiques des professionnels et des particuliers à vélo-remorque sur le Grand Albigeois, sur la grande agglomération. Donc, voilà.
Et comment est-ce qu'elle t'est venue, cette idée?
Alors, on voulait sensibiliser la population à la cause du déchet, au gaspillage alimentaire et mettre en avant des systèmes très simples pour expliquer aux gens comment, on va dire, passer sur une nouvelle transition avec des circuits courts. Donc, à partir de 2024, il y a une loi sur le Grenelle environnement qui va obliger, entre guillemets, ce tri à la source de ces déchets organiques, et on a voulu être un petit peu avant-gardiste sur la question et mettre ça en place sur la ville d'Albi et ses alentours. Donc c'est pour ça que je dis le grand albigeois. Et moi, je suis un grand amateur de vélo, j'en fais depuis tout petit, mais j'en fais au quotidien, et pour moi ça avait un sens de faire cette collecte à vélo et d'y inclure ce principe de mobilité douce, c'est-à-dire que on est en vélo-remorque, on se trimballe dans les rues d'Albi, on ne fait pas d'émissions de CO2, on est juste avec les bruits de nos remorques. Et ça peut interpeller des gens, et c'est ce contact aussi que permet d'avoir le vélo aujourd'hui, ou de marcher à pied, qu'on ne peut pas avoir forcément en voiture, parce qu'on ne peut pas se déplacer dans tous les coins, les recoins du centre, de l'hypercentre d'Albi. Donc, je trouvais ça intéressant d'y inclure cet aspect-là du vélo. Et c'est à partir de là qu'a été basé le principe du projet. Donc, collecter à vélo des biodéchets.
Et pour toi, en fait, il y a plusieurs objectifs avec La Recyclada. Donc, il y a cet aspect, on va dire, collecte, biodéchets, donc le tri à la source, mais aussi la sensibilisation à travers vos déplacements à vélo dans la ville.
Oui, voilà, en fait, on veut sensibiliser les gens, donc on savait qu'il y avait plusieurs manières de le faire. Donc aujourd'hui, on va proposer de la sensibilisation et des ateliers sur le compostage à travers des animations chez des maraîchers, mais aussi on veut, à travers notre passage, entre guillemets, sur les routes d'Albi, que ça interpelle les gens, que dès qu'on va collecter des déchets organiques chez des restaurateurs, les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur avec sa remorque là, qu'est-ce qu'il transporte, et que ça interpelle. Alors souvent on nous arrête, on nous demande qu'est-ce qu'on trimballe dans tout ça, on leur explique, et ils nous demandent, mais qu'est-ce que vous en faites de ces déchets-là? Et bien, on leur dit, vous savez, ces déchets, ce qu'on appelle de l'or noir, on le revalorise, on le composte, et ce compost, une fois qu'il est mûr, on le redistribue à des maraîchers locaux pour refaire une boucle au niveau d'Albi. Voilà.
Et pourquoi cet engagement local au niveau d'Albi? Tu disais, toi, tu es revenu à Albi il y a 2 ans, mais tu faisais quoi avant?
Alors, avant de revenir sur Albi, j'en suis parti, tout simplement. Il y a 3 ans de ça, je travaillais en fait dans le milieu du tourisme. Je travaille pour ceux qui connaissent le comité départemental du tourisme du Tarn. C'est un organisme qui s'occupe de la promotion du département sur plusieurs échelles et qui accompagne les acteurs touristiques, notamment sur le numérique. Donc, au sein du CDT, en fait, j'étais chef de projet web avec une équipe de 4-5 personnes. Et j'étais dans ce milieu-là. Et j'ai décidé d'en partir parce que ça manquait cruellement de sens pour moi. Mon métier de développeur web manquait de sens à ce niveau. Donc, voilà.
Et qu'est-ce qui fait que tu as ressenti que ça manquait de sens? Je veux dire, ça faisait longtemps que tu faisais ce métier?
Alors, j'ai terminé mes études à l'âge à peu près de 21 ans. Donc, j'ai fait des études dans la communication et dans le web à Castres, donc pas très loin d'Albi. Et directement, j'ai été en licence, j'ai été en alternance, donc j'ai travaillé dès l'âge de 20 ans, bon, c'est pas 18 ans, mais j'ai travaillé directement dans le web. Donc, en fait, c'est pourquoi ça manquait de sens, c'est parce que je travaillais derrière mon ordinateur, je voyais éventuellement des chiffres derrière qui me disaient les statistiques de visite des lieux touristiques, de visite de sites internet, c'était vachement numérisé en fait tout ça, tous les résultats que j'avais, mais pour moi c'est ça qui manquait de sens, c'est ces chiffres-là. Et aujourd'hui, quand je peux, par exemple avec la Recyclada, aller collecter les déchets organiques, avoir une conversation de 4-5 minutes avec un restaurateur et avoir un sourire à la fin, pour moi c'est un résultat qui a 10 fois plus d'importance que mes chiffres que j'avais sur l'ordinateur. C'est en ça que je dis que ça manquait de sens. C'est que le rapport à l'humain, le rapport aux autres, était très minime, en fait. Et on parlait souvent en termes de taux de rebond, de pourcentage, de conversion, mais on ne parlait pas en termes de qualité de vie, en termes d'expansion du bonheur ou autre, que sais-je. C'est
pour... D'accord, donc toi, c'était vraiment le côté social qui te manquait principalement, le fait de pouvoir parler avec des gens et de ne pas être devant un ordinateur toute la journée.
Oui, et savoir que ce que je fais, ça a un impact réel au lieu d'un impact financier. C'est un impact parce que je sais qu'en faisant du compostage, je vais... régénérer les sols, renourrir la terre, et que je favorise la biodiversité sur des temps où on n'est pas forcément où c'est pas forcément super enclin. Donc on sait que le nombre de, par exemple, de vers de terre dans les sols a vachement diminué ces dernières années, mais et en faisant ça, je vois concrètement, en fait, je vois concrètement les changements qui sont faits, en fait. C'est très court et ça arrive très vite, que sur des changements qui peuvent avoir des effets un an plus tard ou sur des commentaires TripAdvisor, si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, non, tout à fait. Mais alors, la question que je me pose, c'est toi, au niveau de ton ressenti, ce déclic qui te dit, ouais, non, enfin, je ne veux plus être devant un ordinateur toute la journée, je ne veux plus travailler juste en tant que développeur web. Comment est-ce que ça s'est passé? Il y a eu un événement particulier? Ça s'est fait sur, je veux dire, les différentes années pendant lesquelles tu as travaillé de cette manière? Il y a eu un déclic écologique particulier?
Oui, alors ouais, pour te résumer, bon, je suis un enfant de l'an 2000. J'ai grandi avec cette transition de l'Internet au tout début des réseaux IRC, du développement web qui était accessible à peu près à tout le monde sur Internet. Donc j'ai créé des sites Internet très tôt. Et franchement, j'ai vu Internet, j'ai vu comme un outil, mais formidable. Hein. En plus, on était en pleine expansion, ça me vendait du rêve. Donc à ce moment-là, bon. J'ai fait mes études dans le web et j'ai travaillé directement dans ce milieu-là. Donc mon mode de vie, c'était très simple. Ça se résumait à vélo, travail, dodo. Bon, j'exagère en disant ça, mais ma vie a été très simple. Mais comme je te dis, elle manquait cruellement de sens. En 2013, j'ai fait une expérience de woofing en Laponie suédoise pendant 6 mois où je me suis occupé de chiens de traîneau et j'accompagnais des touristes du monde entier à faire ce qu'on appelle des raids. Donc des sorties sur plusieurs jours avec les chiens, de chalet en chalet, sans électricité ni eau. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Et quand je suis revenu à mon mode de vie, on va dire classique, où j'étais derrière un ordinateur. Et en fait, c'était pas tellement la vie en Suède qui me manquait en fait, en Laponie suédoise, mais c'est plus le sens qui manquait à ma vie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une épreuve personnelle dans ma vie qui m'a dit, c'était en 2017 du coup, maintenant c'est le moment, tu peux lâcher prise et vivre ce que tu dois vivre. Alors, honnêtement, au début, je ne savais pas trop dans quelle direction je partais, mais je savais que j'avais mon plus fidèle allié, c'était mon vélo. Donc, j'ai préparé un voyage quand même, je me suis préparé sur plusieurs mois et je me suis dit, je vais parcourir. La France à vélo et je vais remonter jusqu'en Norvège à vélo. Je me suis dit ça. Finalement, je ne suis jamais arrivé jusqu'en Norvège. J'ai juste parcouru la France à vélo et je suis allé un petit peu en Espagne. Et donc, je suis allé partout. Hein. J'ai fait, sauf le Grand Est, mais je suis remonté de Bordeaux jusqu'en Bretagne. Je suis redescendu dans le Limousin. Je suis reparti dans le Pays Basque. Je suis allé en Espagne ensuite et je suis remonté ensuite dans le Limousin. Et en fait, en parcourant la France à vélo, j'ai travaillé dans des fermes permacoles, mais pas que. J'ai aussi travaillé pour des personnes qui avaient des animaux, des chevaux à s'occuper. Et j'ai redécouvert en fait ce qui me manquait. En fait, c'était le contact avec les gens, la transmission, la bienveillance, l'échange de belles valeurs. Et même en étant sur la route, sans forcément travailler dans des fermes. Eh bien, comment ça s'appelle? J'ai pu avoir des échanges avec des personnes sur différents sujets. Et c'est là que j'ai vu que ça me correspondait, en fait, cet aspect transmission, cet aspect de retour à la terre. Donc, j'ai testé plusieurs métiers, notamment maraîcher. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, c'était principalement des métiers liés au niveau de la ferme, en pépiniériste, des trucs comme ça. Et dans tout ce bric-à-brac, j'ai découvert les notions de la permaculture. Donc, par la suite, j'ai fait une formation, juste une initiation. Mais j'ai découvert les notions de la permaculture, donc prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et redistribuer les richesses. Et ça m'a énormément parlé. Et à partir de là, je me suis dit, je veux faire quelque chose qui soit dans ce milieu-là. Donc, pas forcément maraîcher, pas forcément pépiniériste, pas forcément éleveur de poules ou quoi que ce soit, mais quelque chose en rapport avec la terre. Parce que ça me parlait énormément. Voilà.
Et Ben, par rapport au sujet que tu abordais sur le vélo, alors on s'est rencontrés tous les deux à la fête de la transition à Albi.
Oui.
On est tous les deux cyclistes et on a tous les deux fait des voyages à vélo. Mais j'aimerais que tu t'expliques un petit peu, si t'ennuies pas, qu'on creuse ce sujet du pourquoi est-ce que le vélo est un moyen formidable de voyager pour rencontrer des gens.
Alors, L'avantage du vélo, et parce que j'ai aussi fait des pèlerinages à pied, j'y reviendrai peut-être là-dessus, c'est qu'il y a un rythme de vie qui est suffisamment assez lent pour apprécier les paysages, pour pouvoir s'arrêter là où on veut, parce qu'en voiture, on ne peut pas se garer forcément là où on veut, d'apercevoir les gens et de s'arrêter pour leur parler. De pouvoir sentir, mais c'est bête, hein, ce que je veux dire, mais de pouvoir sentir l'air qui nous sur le visage, respirer le grand air, on n'est pas enfermé entre quatre bouts de toile, et de pouvoir s'arrêter, ouais, cette idée de pouvoir s'arrêter là où on veut, et ça, en termes de voyage, je trouve ça formidable, car on a une pseudo-liberté. Donc on trimballe enfin, le peu de notre vie qu'on a, on peut le trimballer sur un vélo. Donc on peut y mettre une tente, des habits. C'est le bikepacking que j'appelle, c'est un peu plus conséquent que marcher à pied, hein, entre guillemets, parce qu'on peut prendre un peu plus d'affaires et on peut être très vite autonome au final. Et c'est ça aussi, je pense, que j'ai voulu me prouver, en fait, quand je voyage à vélo, c'est que je pouvais être autonome et me suffire juste avec mon vélo. Et quand on roule à vélo, ouais, il y a ce truc, en fait, de descente et de montée. Des fois, tu te retrouves, des fois, à monter, et quand tu montes, t'es dans l'effort et tu réfléchis, des fois, tu réfléchis pas, ou justement, tu sors des trucs qui étaient en toi et tu les transcendes, j'ai envie de dire. Et quand tu es en descente, ou quand tu es sur un pont ou en pleine nature, tu profites juste du moment présent et tu te dis, mais en fait, c'est formidable de rouler à vélo. Il y a une liberté, en fait, qui est formidable. Et ça, cette liberté, j'ai bien ressenti sur. Et par exemple, quand j'étais, je sais pas, à l'île de Ré, avec tous les passages à vélo dans les bacs où ils préparent le sel, les salières, tout ça. Mais là, j'ai trouvé ça formidable, parce qu'il y a une liberté où on est en communion à la fois avec les oiseaux de la mer, avec cet aspect iodé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce passage sur les îles comme ça. Où ce mode de transport, en fait, ce mode de transport est totalement adapté, en fait. C'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, on est beaucoup sur les déplacements en voiture, et on en a pris l'habitude, enfin, malheureusement, ou des fois, d'un côté, je trouve ça bien, mais en fait, il y a beaucoup beaucoup de trajets dans notre quotidien qu'on peut faire à vélo, très très aisément, quoi. Et c'est ça aussi que j'aimerais dire aux gens, vous pouvez vous déplacer à vélo sans forcément faire des kilomètres et des kilomètres, et déjà voir beaucoup de choses, en fait.
Si on en revient un petit peu à ton parcours, comment est-ce que ça s'est passé quand tu as décidé de te lancer justement, et que tu t'es dit, OK, je quitte mon emploi, je me lance dans quelque chose de complètement différent. Comment tu t'es senti? Est-ce que tu as eu peur, ou pas? Est-ce que finalement c'était vraiment tellement, tellement fort ce besoin que non, il n'y a même pas eu de peur? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je pense que j'ai vécu la libération avant même d'avoir peur ou quoi que ce soit. Mais je vais pas te mentir. Au tout début, justement, donc, au tout début, quand je savais pas vers où partir, je me suis dit, il faut quand même que tu t'organises. Si tu t'organises pas, tu vas peut-être partir dans tous les sens. Mais en fait, je voulais pas forcément me mettre en tête de me mettre un GPS et de me dire tel jour je dois être là, le lendemain je dois être là, parce que il y a rien de pire pour moi que de conditionner un voyage et en s'interdisant tout le libre arbitre qu'on pourrait avoir en partant dans une autre direction, parce que les choix sont jamais fixés. Mais au moins de me préparer au niveau matériel, de me préparer physiquement aussi, parce que faire au tout début, hein, je l'ai regretté par la suite, je faisais entre 100 et 130 km par jour à vélo. Donc c'était quand même assez conséquent, donc il fallait que je me prépare aussi physiquement. Après aussi, j'avais pas mal d'affaires. Et ça a été tout un travail de renoncement, entre guillemets, au matériel, même si je n'avais pas 10 000 choses mais, et que je n'étais pas forcément attaché au matériel, mais entre guillemets, vendre des biens que j'avais accumulés, quitter mon appartement, pardon, quitter mon appartement, vendre ma voiture, même si je l'utilisais très peu. Donc il y a eu tout ce travail à faire. Et donc, je me suis retrouvé à préparer tout ça. Et là où j'ai été un peu chamboulé, ça a été la première semaine de voyage. La première semaine de voyage, j'ai été chamboulé parce que je me suis retrouvé tout seul. Et vraiment, vraiment tout seul. Et donc là, j'avais, même si je savais que toute ma famille et mes proches, ils me soutenaient, ils avaient même fait une cagnotte pour moi juste avant de partir, j'avais trouvé ça formidable. Et bien, je me suis retrouvé seul et ça a été très dur, mais ça a été, j'ai envie de dire, salvateur. Parce que j'ai pu enfin me retrouver face à moi-même, face à peut-être à des peurs, peut-être à des envies. Et je me suis écouté à ce moment-là et c'était vraiment génial.
Parce qu'au départ, tu avais prévu de partir combien de temps ?
Je ne m'étais pas fixé d'échéance, mais j'avais prévu, j'étais parti en août 2017, et j'avais prévu d'arriver aux îles Lofoten courant novembre. Donc les îles Lofoten, c'est tout au nord de la Suède, pardon, pas de la Suède, de la Norvège. J'avais prévu d'y arriver courant novembre-décembre, en y allant à mon rythme. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit que les îles Lofoten en hiver, c'était très compliqué. Parce qu'il fait très froid et on n'est pas très loin de la Laponie. Hein. Et est-ce que ce serait très adapté au final ? J'aurais pu le faire, franchement. Mais j'ai réfléchi autrement et je me suis dit, vis ce que tu dois vivre sur la route et tu verras bien ce qui t'arrive. Et je l'ai fait comme ça. Et au final, finalement, ça a changé mes directions. Je suis parti dans d'autres directions. Je suis parti en Espagne, dans le Pays Basque. C'était génial aussi. Et après, je suis retourné dans le Limousin, au centre de la France. Et là, j'ai passé l'hiver là-bas, où j'ai travaillé pendant plus de 2 mois dans une ferme.
Parce que comment est-ce que tu as fait financièrement, justement, pour ton voyage ? Quand tu as quitté ton emploi, tu as démissionné ou tu as pu négocier un départ ?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en contre, j'avais un CDD. Donc, quand je suis parti, entre guillemets, j'ai pas rompu le contrat, c'était la fin de mon CDD. Ils voulaient me passer sur un CDI, mais je leur ai fait comprendre que je le prendrais pas, entre guillemets. Et ce qui s'est passé, du coup, j'ai eu une prime de départ, parce que ça faisait plusieurs années que je travaillais. J'avais mis un peu d'argent de côté. Et en plus de ça, tous les biens que j'avais vendus, donc moi, il n'y avait pas 10 000 trucs, mais il y avait quand même une voiture, il y avait quelques affaires. Ces biens-là que j'ai vendus, ça m'a permis aussi de cumuler un petit peu d'argent de côté. Mais j'avais un gros avantage à tout ça, c'est que vu que j'étais bénévole et woofer, pendant que je voyageais, ou quand je m'arrêtais du moins, j'étais nourri, logé gratuitement. Donc je travaillais la journée en tant que bénévole ou woofer, et j'étais nourri, logé, donc je dépensais rien en fait. Hein. Je dépensais pas d'argent.
Est-ce que tu peux expliquer un petit peu justement ce que c'est que le woofing peut-être ? On en avait parlé déjà dans un épisode avec Marguerite, qui est elle devenue maraîchère et qui avait fait toute une session de woofing en France. Mais si tu peux réexpliquer, toi, ouais, quelle est ta vision du woofing ? Comment tu as découvert ça ? Comment ça fonctionne ?
Alors, pour moi, le woofing, c'est synonyme de partage. C'est une personne, un agriculteur, un maraîcher, une personne qui a besoin d'aide chez elle, qui va ouvrir son lieu, qui va accueillir des gens pour transmettre, pour partager des connaissances, pour travailler avec elle. Tout ça dans des valeurs de partage, de communication, de transmission qui sont très importantes. C'est ça que je veux souligner dans le woofing. Et parce qu'une personne qui recherche quelqu'un pour l'aider, mais qui au final ne va pas lui parler, va juste lui donner des tâches à faire, pour moi, ça, c'est pas du woofing, c'est pas du travail dissimulé non plus, mais c'est juste quelqu'un qui n'est pas dans l'esprit woofing. Donc l'esprit woofing, ouais, c'est le partage, la transmission et l'apprentissage par l'exemple. Donc moi, j'ai été dans des fermes qui accueillaient en woofing et on m'a bien dit voilà de quelle manière on travaille. On se laisse une période d'essai de 1 semaine pour savoir si nos tempéraments fonctionnent bien, parce que c'est vrai que des fois on va faire du woofing chez les gens, mais on a un mode de travail qui est différent, on a un mode de vie peut-être qui est différent. Il faut savoir si les personnes se correspondent au final. Donc nous on avait bien déterminé ça au début avec la personne qui accueille en woofing. On dit moi je veux voir comment tu travailles, toi tu vas voir comment je travaille aussi. Et y a des choses que je ne sais pas, il y a des choses que tu vas m'apprendre, et j'espère qu'il y a peut-être des choses aussi que moi je peux t'apprendre sur d'autres aspects qui sont pas forcément liés au maraîchage, par exemple. Et à partir de là, une fois que le deal est fait, on travaille de manière bénévole. Donc généralement, c'est entre 4 à 5 heures par jour. Mais après, souvent, quand le lien est très fort, quand la transmission se fait très bien, on a tendance à travailler un peu plus et même à pas voir les heures passer parce qu'on est bien au final dans cet apprentissage-là. Et après, on partage les repas ensemble. Alors, certaines personnes en woofing ne partagent pas les repas avec leur woofer. Je trouve ça dommage, mais moi, j'ai toujours partagé mes repas. On partage les repas ensemble, on prépare le repas ensemble. Et après, le woofer a de quoi loger notamment. Donc, soit il apporte, ça c'est terminé avant, soit il apporte sa tente, soit on lui fournit un lieu d'accueil. Et voilà. Et donc après, il y a d'autres avantages à faire du woofing, c'est qu'on découvre la région du lieu où on est accueilli. Donc des fois, les personnes qui nous accueillent vont nous prêter soit une voiture, soit vont nous faire visiter carrément les alentours de là où ils habitent. C'est un peu, on revient à cet aspect un peu comme quand on va faire, comment on dit ça, quand on va être hébergé dans un lieu d'accueil dans un autre pays, que le local nous fait visiter tous les alentours. Donc c'est un peu ça. Et moi j'en ai une très bonne un très bon retour à du woofing. Voilà.
Merci. J'avais essayé aussi un petit peu le woofing dans la région de Toulouse et c'est vrai que ça m'avait aussi beaucoup plu et cet aspect partage et on était un groupe de woofers aussi et le côté préparer les repas ensemble, partager les repas ensemble, c'est vrai que c'était quelque chose de très sympa. Si on en revient à ton parcours aussi et le moment où tu es revenu sur Albi. Comment est-ce que cette idée de la recyclada a commencé à germer? Et tu nous disais que c'était sous une forme d'association aujourd'hui, que tu étais aussi une multicasquette. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière tu vis? Comment est-ce que tu fais aujourd'hui?
Alors, la Recyclada, il y a eu un avant, en fait, à la création de l'association. Je suis revenu sur Albi début d'année 2019, hein, enfin, même fin d'année 2018. Et à partir de là, je me suis dit, faut que je trouve un jardin. Même si il faut que je trouve un jardin, j'ai besoin de travailler avec la terre. Et à partir de là, dès que j'ai eu un jardin, en fait, hein, j'ai fait des rencontres exceptionnelles en fait. J'ai rencontré des gens qui m'ont amené à rencontrer d'autres gens. J'ai tissé des liens comme ça très rapidement. Et j'ai rencontré notamment deux personnes qui sont mon associé actuel, qui est Tristan Mansara, et Marion Lamar, une autre personne avec qui on a fondé Incroyable Comestible. C'est un jury, donc une autre association qui a pour but de mettre en place des potagers urbains, de transmettre des valeurs au niveau de la permaculture, d'initier des personnes au jardinage en milieu urbain. Et à partir de là, on a rencontré plusieurs personnes et j'ai vu qu'en fait, c'est ça qui me plaisait en fait dans tout ça. C'est le lien social, c'est rencontrer des gens, c'est faire des animations autour de la terre. Je dis le jardin, enfin, je dis la terre, mais ses jardins, c'est le compostage, c'est faire des semis ensemble, c'est aller faire des balades en forêt. Et à partir de là, moi, je me suis dit, ça serait pas mal, mais j'y avais déjà réfléchi. Hein. Je voulais faire un métier qui soit relatif au vélo, en fait. Hein. J'utilise le vélo comme outil de mon métier. Donc, j'avais déjà eu des projets en tête des années auparavant. J'aurais voulu faire un food truck ambulant à vélo quand j'étais à l'époque au niveau de Nantes. Donc, j'avais déjà réfléchi à des projets comme ça, mais je les avais jamais montés. Du coup, ce que j'ai fait, moi, je me suis dit, eh bien, pour l'instant, tu sais pas forcément quoi faire au niveau de ton métier à vélo. Eh bien, tu vas juste faire coursier à vélo. Donc, je me suis lancé comme coursier à vélo sur Albi. Et je me suis dit, ok, au moins tu vas te lancer comme coursier vélo à Albi. Et là, à cette même époque, Tristan, avec qui j'avais l'association Incroyable Comestible, me dit, mais pourquoi on lance pas un système de... Enfin, je l'avais accompagné, pardon, sur ses projets de maître composteur. Et au fil des discussions, on en vient, mais pourquoi on ne lance pas un système de collecte à vélo de ces déchets organiques? Je me dis, mais c'est pas bête. Et là, moi, ça a raccordé le fil qui manquait à mon statut de coursier vélo. C'est-à-dire, ah ben oui, mais là, ça prend tout son sens. Donc, c'est pas un métier à l'heure actuelle parce qu'on n'est pas salarié et on ne se paye pas parce qu'on est au niveau associatif. Mais au moins, c'est une activité qui est à vélo. Et qui prend tout un sens, en fait. Hein. Du coup, c'est à partir de là que je me suis dit, ouais, en fait, c'est ce mode de vie-là que j'aimerais exploiter à l'avenir pour en faire un métier, quoi. Voilà.
Et tu dis que c'est pas un métier, que c'est au niveau associatif, mais c'est quand même une activité qui t'occupe la majeure partie du temps.
Oui, là, en ce moment, parce qu'on est en pleine, on a été créé. Enfin, on a été lancé en fin août 2020, début septembre, et vu que c'est en pleine expansion, ça me prend énormément de temps. Sur la collecte, on est à 2 jours par semaine, donc c'est quand même assez conséquent. Et mais après, il y a tout un travail à faire au niveau de la communication, au niveau du démarchage, au niveau de la préparation des futurs sites de compostage. Donc au final, toutes les valeurs que j'avais accumulé ces dernières années et tous les outils que j'ai étudiés, comme la communication, comme le web, etc., eh bien, sont regroupés en une seule et même association. Et là, moi, je trouve ça formidable. C'est pas un accomplissement, j'ai pas envie de dire ça parce qu'on est au tout début, mais c'est le début d'un projet qui prend vraiment un grand sens pour moi. Donc, avec toutes les valeurs que j'ai cumulées ces dernières années, donc au niveau de la permaculture, au niveau du recyclage, au niveau du circuit court et du gaspillage alimentaire, au niveau du mode de transport, donc le vélo que j'adore, au niveau de travailler dans le milieu du web, mais que ça ait un sens et de transmettre des valeurs positives liées à la transformation, à la revalorisation. Donc là, tout est regroupé et je me dis, ah mais ouais, mais en fait là, je suis à ma place.
Oui, c'est génial parce que là, dans ton parcours, la manière dont tu l'écris, il n'y a pas eu en fait de fracture entre, j'allais dire, ce que tu faisais avant, les compétences que tu as pu acquérir pendant plusieurs années et ce que tu fais aujourd'hui. Tu as réussi à joindre en gros tes valeurs et à utiliser les compétences acquises depuis tes études pour alimenter ces valeurs.
Exactement. Je voulais pas les mettre de côté d'ailleurs. Je me suis pas dit à un moment donné, t'es plus développeur web parce que ça te correspond pas. En fait, je pense que dans la vie, on a des outils, on a des compétences et on peut les servir vers la direction qu'on a envie. Et c'est à nous de choisir si on veut faire quelque chose qui nous correspond ou pas, quoi. Donc, je me suis dit, en fait, le web, je pense que c'est un outil formidable. S'il est utilisé dans le sens qu'on a envie. Et je me suis dit, non, mais je vais faire ça, je vais faire du web, mais que ça a un sens profond, en fait. Hein. Que c'est plus orienté au niveau de l'humain, que ça représente à la fois mes valeurs, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'accompagne les gens concrètement. Je les aide à déployer leur potentiel dans le monde que représente Internet aujourd'hui. Et je travaille principalement aujourd'hui avec des artisans, des entrepreneurs, des thérapeutes, des associations, pour leur montrer qu'en fait, les outils de communication, ils ne sont pas uniquement là pour faire de la pub, pour faire des chiffres, pour faire de la rentabilité, mais de montrer un regard extérieur sur les activités alternatives qu'on veut mettre en place aujourd'hui dans le monde. Voilà.
Et comment est-ce que tu perçois l'avenir au niveau personnel ou professionnel?
Alors l'avenir, bon, c'est vrai qu'on vit une situation assez exceptionnelle, hein, je dois dire, sur plusieurs plans, avec le confinement, l'épidémie. Pour moi, il y a beaucoup de symbolique derrière tout ça et certains parfois des obstacles. Mais il y a quelque chose qui me rassure énormément, c'est que je crois de manière très forte que la nature fait bien les choses et qu'il y a toujours un équilibre, tu sais, qui se met en place dans la nature. Enfin, je viens de le voir tout simplement. Là, j'ai un aloe vera chez moi. Il y a une fleur qui est en train de périr complètement. Elle est en train de s'écraser sur le bord du pot. Mais de l'autre côté, il y a une autre tige qui sort, en fait, qui est en train de naître. Et c'est ça, en fait, pour moi, qui représente l'avenir. C'est que il y a des choses qui vont s'en aller, des anciennes valeurs. Peut-être des peurs aussi, et d'autres choses vont émerger, et je l'espère, de belles choses. Et je pense qu'il faut construire le monde de demain avec les plus belles valeurs qui soient au niveau de l'humain, au niveau de la terre. Bon, je reprends les principes de la permaculture, c'est certain. Et se dire qu'entre guillemets, les compétences, le savoir qu'on a, toutes ces choses-là, il faut les transmettre aux futures générations, il faut les transmettre aux autres. Et pour ça, rien de tel que de recréer du lien social et de rencontrer les gens, quoi. Alors c'est vrai qu'on vit une situation un peu exceptionnelle parce que justement, ces rencontres-là ne peuvent pas avoir lieu. Mais il y a toujours des alternatives, hein, donc des podcasts, des vidéos YouTube, des posts chaleureux sur Internet, par exemple. Mais j'espère honnêtement qu'on va sortir de cette situation et qu'on va pouvoir à nouveau goûter les joies de la nature et de l'humain.
Et est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer, un conseil à donner aux Albiégeois ou à d'autres personnes par rapport à toi, ton engagement, et pour peut-être éveiller, sensibiliser ou pousser les gens à agir également?
Si un message que je devrais faire passer, c'est aux personnes qui ont des valeurs, qui sentent qu'ils ont des valeurs très fortes en elles, mais qui n'ont pas osé les sortir, et qui n'ont pas osé en parler, qui n'ont pas osé, mais justement qu'elles essayent de se libérer et de les mettre en pratique. Alors au début, c'est pas simple en fait, c'est pas simple parce que des fois il y a des questions de famille, d'éthique, de renfermement par rapport à notre travail, etc. Mais si vous avez des valeurs fortes qui vous tiennent à cœur, eh bien, engagez-vous et essayez par des petits actes au quotidien, comme dirait Pierre Rabhi, faire sa part, de faire votre part dans ce qui vous touche. Dans la vie, en fait, hein, et pour ensuite délivrer aux autres le message qui vous tient à cœur. Je pense que c'est le moment de se lancer dans ce genre d'aventure et de voir, entre guillemets, la vie elle-même comme une aventure avec son lot d'expériences, son lot de péripéties, et que ça serait bête de garder uniquement pour nous les belles valeurs qu'on a en nous, mais qu'il faut justement les transmettre de quelque manière que ce soit par l'écriture, par l'art, par la chanson, par les actions concrètes qu'on fait directement dans notre quotidien, mais ne pas hésiter à se lancer, ouais.
Merci beaucoup Ben pour ton témoignage
Merci à toi.
et puis franchement vraiment bon courage avec la Recyclada et je ne manquerai pas de toute manière d'essayer de t'accompagner le plus possible que je peux dans ce projet étant nouveau albiégeois également et puis je te dis à très bientôt.
Merci à toi. À bientôt.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez!